Chapitre 2. Missiles intercontinentaux de bénédiction. C'était à Genève et nous étions plus de 400 réunis pour un service d'été. Pourtant, une désagréable impression de tourner en rond remplaçait progressivement dans ma vie de prière la joie du premier amour. Ma relation avec Dieu perdait peu à peu de sa saveur. Certes, la pratique journalière du culte personnel remplissait toujours sa fonction de moteur spirituel, mais celui-ci s'essoufflait. Ce soir-là, j'eus le pressentiment que Dieu avait à s'entretenir avec moi, et, bien qu'étant dans le plein boom d'une campagne d'évangélisation, je restais seul pour chercher sa pensée. Un texte bien connu, et déjà cité au premier chapitre, s'imposa alors à mon esprit. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des actions de grâce, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, loin des agitations, étant libres de servir Dieu conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu, notre Sauveur. Première épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3. Ce passage de l'Écriture allait bouleverser non seulement ma communion avec le Seigneur, mais aussi ma vision du monde, mes sentiments face à celui-ci, et probablement orienter tout mon ministère. Prier pour tous les hommes, avant toute chose, en tout premier lieu. Le Saint-Esprit semblait bien avoir inspiré ce texte pour que tout chrétien saisisse qu'il y a là non seulement une urgence, mais également une stratégie puissante pour changer la face du monde. Comment alors mettre cela en pratique? Depuis, j'ai découvert et expérimenté plusieurs méthodes et principes différents sur lesquels je reviendrai. Au début, le Saint-Esprit attira mon attention sur un livre écrit dans le but précis de fournir aux intercesseurs des informations sur chaque nation de la planète. Intitulé « Flash sur le monde » ou « Operation World » en anglais, cet ouvrage fournit une vue d'ensemble sur le plan géographique, politique, démographique et spirituel de chaque pays. Je consacrai, aidé de ce précieux outil, 20 minutes chaque jour à prier pour une nation différente. Les résultats ne se firent pas attendre, mais quels furent-ils? Étonnement, loin d'être un exercice éprouvant, ces 20 minutes devinrent les plus belles de mes journées. Je commençais à aimer des pays dont j'ignorais auparavant jusqu'à l'existence, et quand je recevais de leurs nouvelles par les médias, ou, mieux encore, en rencontrant un de leurs habitants, je me sentais réellement concerné. Ma vie de prière avait comme éclaté dans une dimension internationale. Ma culture générale, par répercussion, fut renouvelée et enrichie. Mon intérêt missionnaire et global pour le monde connut une croissance soutenue et pourtant naturelle. Certains exaucements précis me remplirent de stupéfaction et de joie. Ma communion avec Dieu se fortifia. Je quittai ma position de spectateur impuissant devant l'histoire pour devenir acteur. En un an, même en excluant les week-ends, je découvris qu'il était possible de prier pour tous les êtres humains répartis dans les quelque 250 nations du monde. Votre chambre peut devenir une rampe de lancement pour missiles intercontinentaux de bénédiction. Un choix à faire. Nous sommes sa maison. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 6. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, verset 7. Avez-vous réalisé que vous êtes la maison de Dieu? Aujourd'hui, une prophétie de l'Ancien Testament pourrait devenir réalité pour vous, et Dieu pourrait vous appeler d'un nom nouveau. Maison de prière pour tous les peuples. C'est un nom original, n'est-ce pas? Mais un nom qui vous convient et vous honore parfaitement, car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le désirez-vous ? Le diable trompe nombre de chrétiens par deux mensonges. 1. L'intercession pour les nations est réservée à des personnes particulières et très spirituelles. 2. La prière se développe en cercle concentrique. Il faut d'abord apprendre à prier correctement pour son entourage avant d'aller plus loin. Ces tromperies trouvent un terrain bien préparé par notre éducation. En Suisse, par exemple, quand vous avez 7 ans, l'institutrice vous parle de votre village, à 8 ans, de votre district, et à 9, de votre canton. À 10 ans, c'est le tour de votre pays, puis quand vous atteignez 12 ou 13 ans, vous étudiez l'Europe. À 14 ans, vous travaillez sur les autres continents, et finalement, vous terminez votre scolarité obligatoire avec le système solaire, les galaxies et l'univers. C'est ainsi que nous créons une multitude de petits rois et petites reines, bien convaincus d'être le centre de l'univers. Cette manière de voir les choses influence sérieusement notre vie chrétienne, mais elle n'est pas biblique. Pourquoi ? La Bible commence par nous donner une vision globale. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Jésus apprend à ses disciples à prier en disant « Voici donc comment vous devez prier. » Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, versets 9 à 10. Prier pour les nations n'est donc pas un sommet, mais un fondement. Les premiers chrétiens étaient de la même nature que nous, naturellement enclins à l'incrédulité, à la critique, se préoccupant de leurs besoins immédiats et ayant leurs idées sur les groupes de personnes que Dieu ne peut pas sauver. Pourtant, des milliers ont obéi et ont, de ce fait, reçu une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses. Il s'est ainsi créé, peu à peu, un réseau international de prières très dense, si bien que, quand Paul arrivait en Italie, ce peuple bénéficiait de l'intercession fidèle de toute une armée. Tout au long des Actes des apôtres, des milliers de personnes se convertissent, des paralytiques se lèvent, des morts ressuscitent, des anges interviennent, des dons financiers importants passent d'un pays à l'autre, des missionnaires sont envoyés, des villes sont bouleversées par l'Évangile. Les premiers chrétiens semblent invincibles, et la parole de Dieu gagne sans cesse de nouvelles régions. Pourquoi ? Chaque nouveau converti, chaque chrétien, chaque ancien apprenait, avant toute chose, à parler avec son Père céleste de tous les hommes. Chaque nouveau disciple apprenait à aimer le monde entier comme Dieu lui-même. L'amour ne périt jamais, il est conquérant. L'information en ce temps-là était pourtant très limitée. La grande majorité n'avait ni livre ni carte de géographie. Cela devrait nous garder de faire de l'information une condition sine qua non pour intercéder. Utilisons toute l'information possible pour mieux prier, mais n'oublions pas que la vraie connaissance des besoins et la manière adéquate de les présenter à Dieu nous viennent du Saint-Esprit, conformément à l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Si l'apôtre Paul passait en ce moment chez vous, et dimanche prochain dans votre communauté, il vous demanderait, avant toute chose, de prier pour tous les hommes. Le feriez-vous ? Nous disons à Dieu, fort de notre culture concentrique, « Lorsque tu nous auras donné un bon équipement moral et spirituel, nous chercherons ton royaume et ta justice. » Mais il nous répond, « Préoccupez-vous donc, en premier lieu, du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Matthieu 6, verset 33. Comment puis-je, en ce moment, réellement et concrètement aimer, par exemple, les Canadiens ? En leur accordant 5, 10, 20 minutes de mon précieux temps, me rendant disponible devant mon Père pour les aimer avec lui, en invoquant sa bénédiction et en menant le combat de la foi pour eux. Oui, je peux, de ma chambre, participer à la destinée du Canada, car Dieu m'en offre non seulement la possibilité, mais me le demande expressément. La caractéristique de la famille dont je fais partie est un père qui aime ardemment une humanité perdue. Il s'en préoccupe, la visite, lui envoie ses messagers, ses anges, ses missionnaires, ses prophètes. Il en parle dans toutes ses conversations, et il se trouve qu'il m'a adopté. Quand j'entre dans sa présence, je sens dans son regard un amour ardent, dans son cœur une volonté à exprimer, dans sa pensée un plan de salut. Il me dit, « Mon fils, aujourd'hui je veux que tu aimes avec moi les Canadiens, les Boliviens, les Finlandais, les Gabonais, les Thaïlandais. » Je ne comprends pas tout, mais j'en sais suffisamment pour travailler avec lui et rendre son cœur heureux. Ce n'est pas ma volonté qui compte, mais la sienne. Alors je confesse mon besoin d'être inspiré par l'Esprit. Bien souvent, mais non obligatoirement, nous commencerons par prier selon les informations que nous connaissons. C'est presque imperceptiblement que l'inspiration prendra le relais. Mais Dieu sait comment parler à chacun de ses enfants. Des idées nouvelles, plus profondes, plus grandes, plus complètes, plus proches de la réalité et du terrain, se développeront. L'intérêt humain fera place au fardeau divin. Les valeurs humaines pâliront, tandis que les valeurs du royaume de Dieu prendront de l'éclat. L'amour naturel, ou le manque d'amour, sera remplacé par le tant aimé de Dieu. Les mots prendront un poids jusque-là inconnu. Notre intelligence saisira des principes nouveaux. Notre être tout entier se sentira concerné et participera à cette construction spirituelle. Ce moment achevé, ce sera comme après un bon contact d'évangélisation. Une fois qu'il est terminé, on s'interroge. Où est-ce que je suis allé trouver de telles réponses? D'où m'est venue cette sagesse? Dieu est humble. Il ne sonne pas de la trompette en disant « Attention, mon fils, ma fille, à partir de maintenant, tu seras inspiré par moi. » Non, il le fait discrètement, presque imperceptiblement, mais il le fait. Il le fera pour vous, comme pour tous ceux qui veulent apprendre, avant toute chose, à prier pour tous les hommes. Un privilège immense. Imaginez que vous ayez le projet de vous entretenir avec le chef de votre État et de devenir son ami. Plusieurs mois de démarche, même pour une brève entrevue, ne vous donneraient aucune certitude d'y aboutir. Par contre, il serait très facile pour lui de faire votre connaissance et même de lier amitié avec vous. Vous en seriez certainement très honoré, et même vos petits-enfants seraient sûrs d'en entendre encore parler pendant longtemps. Qu'en est-il de Dieu? Sur notre demande, une audience était impossible et une amitié inimaginable. Fait surprenant, il a lui-même pris l'initiative de nous offrir cette audience, de surcroît privée et journalière. Plus encore, il cherche notre amitié et nous offre la sienne, conformément à l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 15 à 16. Allons-nous saisir notre chance? Mais comment un chef d'État pourrait-il développer une amitié avec une personne qui ne se préoccuperait que d'elle-même, refusant toute conversation au sujet du pays qu'il gouverne? Cette relation pourrait être celle d'un père avec un enfant en bas âge, mais pas celle de deux amis. Imaginons le président de la République française se promenant dans les jardins de l'Élysée avec une petite fille de 3 ans. Celle-ci lui demandera pourquoi les coquelicots sont rouges et comment se fait-il que les nuages restent accrochés au ciel. Elle lui montrera ensuite ses capacités athlétiques en courant très vite sur le chemin. S'il lui arrive de s'écorcher le genou, elle ira se faire consoler dans les bras du président. Ce type de relation a, il est vrai, son charme et sa valeur. Mais cet homme a aussi besoin de se promener avec des amis, c'est-à-dire des personnes qui écouteront attentivement ses préoccupations, ses projets, ses désirs pour la France. Une audience auprès du roi de l'univers pour s'entretenir de plans éternels et puissants est notre immense privilège. Dieu n'est ni un chef religieux, ni un roi de parade, comme certains monarques qui, aujourd'hui, n'ont quasiment plus de pouvoir et ne sont que la vitrine d'une nation. Dieu règne bel et bien sur nos chefs politiques, et il détient réellement le pouvoir temporel et éternel. Il est, on ne peut plus sérieux, lorsqu'il nous demande d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte et de nous entretenir avec lui de tous les hommes créés à son image, conformément à l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, et Jean, chapitre 15, verset 14. Un ministère est un devoir ni difficile ni pénible. Ses commandements ne sont pas pénibles. Jean 5, verset 3. Pourquoi? Parce que sa loi est désormais inscrite dans nos cœurs. Dieu nous fait aimer ce qu'il aime, conformément à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Comment cela se produit-il? Son amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, conformément à Romains, chapitre 5, verset 5. Qui est l'objet de son amour? Le monde entier qu'il a tant aimé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que Jésus aime aujourd'hui les Péruviens, les Suisses ou les Congolais avec la même intensité que lorsque son sang coulait pour eux à la croix. Dieu aime toujours tellement le monde qu'il nous demande en cet instant, avant toute chose, de l'aimer avec lui. La Bible affirme sans équivoque que Dieu nous veut ses imitateurs puisque nous sommes ses enfants bien-aimés, conformément à l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Hébreux 13, verset 8, Éphésiens 5, verset 1. Je me trouvais au Cameroun, parlant de ce sujet devant 200 chrétiens engagés. À la question « Qui connaît le passage de 1 Timothée 2, verset 1 à 3 ?» Tous ou presque levèrent la main. Mais à celle « Qui a déjà prié depuis sa conversion, ne serait-ce que 10 minutes pour les Japonais ?» Seuls 3 répondirent par l'affirmative. Chacun accepta de prendre 10 minutes le lendemain matin pour le faire. Quand vint le moment de la réunion, j'inscrivis au tableau les sujets qu'ils avaient reçus en priant pour le Japon. Une fois que celui-ci fut rempli, une chose était évidente. Aucune conférence nippone, aucune expérience missionnaire n'aurait pu en si peu de temps inspirer une telle précision, une telle profondeur et un tel amour pour ce peuple. La discrète signature du Saint-Esprit était bel et bien là. 200 missiles de bénédiction, probablement pour la première fois de l'histoire, avaient quitté le Cameroun et atteint le Japon. Une occasion unique dans l'éternité. La terre, une école de princes, fils et filles du roi. Un hebdomadaire montrait, il y a quelques années, Charles d'Angleterre, en train de ramper dans la boue, passant sous une clôture de fil de fer barbelé. Quelle étrange posture pour un prince. Celui-ci suivait en fait un entraînement de survie en vue d'obtenir son brevet de pilote. Nous sommes appelés à régner avec Christ pour l'éternité, conformément à la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 12. Il y a des multitudes de choses passionnantes que nous pourrons vivre au ciel. Imaginez quelques instants ces milliards de milliards d'années de bonheur. Bien sûr, l'adoration et la communion fraternelle que nous expérimentons déjà dans une certaine mesure en feront partie. Mais il y a des expériences très précieuses qu'on ne peut vivre que maintenant sur cette terre. Une brève période de quelques décennies, soit une infime partie de notre vie éternelle. En voici une liste bien incomplète. Aimer Dieu sans l'avoir vu. Intercéder pour les non-croyants. Intercéder pour les nations, annoncer l'Évangile, amener quelqu'un à se convertir, pardonner à ceux qui nous offensent, lutter contre le péché, résister à la tentation, marcher par la foi. Pouvons-nous saisir la valeur de ces choses pour notre Dieu, lui qui en comprend les conséquences éternelles? Il poursuit un but premier pour chaque être humain, nous rendre semblables à Jésus-Christ, conformément à l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29. Certains acceptent ce plan et d'autres le refusent. Trop de chrétiens s'imaginent que ce processus ne sera vraiment efficace qu'une fois arrivé au ciel. Quelle diabolique séduction! Quelle erreur lourde de conséquences! Votre bref séjour sur terre est le seul endroit, à l'école du Saint-Esprit, où il vous est possible d'apprendre, comme Jésus, la marche par la foi, la lutte contre le péché, la fidélité dans l'opposition, l'obéissance dans la souffrance, l'amour dans les larmes. L'avez-vous réalisé? L'école de prince est loin d'être facile, même si elle comporte, par ailleurs, tant de beaux côtés. Vous apprenez à régner, vous vous préparez, sans le réaliser pleinement, à votre véritable carrière éternelle et céleste. Quelle sera-t-elle? Nous ne le savons pas. Par contre, nous avons la certitude que Dieu fait tout pour un but, conformément au livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4, qu'il ne forme jamais en vain. La vie éternelle sera bien plus créative, intéressante et belle que la vie terrestre. Vous serez semblable à Jésus-Christ, et pourtant unique dans l'univers entier, car la sagesse, la bonté et la puissance de Dieu sont variées à l'infini. Il ne nous sera cependant pas possible de revenir en arrière, et notre obéissance céleste ne remplacera jamais notre obéissance terrestre. Mais alors, me direz-vous, y aura-t-il des gens malheureux au ciel? Non. Je crois pour ma part que chacun peut être parfaitement heureux dans sa maturité et dans ses capacités. Un ange sera parfaitement heureux et ne sera pas jaloux de l'homme, pas plus qu'il n'y aura de rivalité entre deux êtres humains. Prenons l'exemple du règne animal actuel. Un cheval peut être heureux comme cheval, sans envier une truite, une abeille ou un aigle. Mais Jésus nous enseigne clairement que la manière de gérer les dons de Dieu sur terre aura des répercussions éternelles. Évangile de Luc, chapitre 19, versets 12 à 26. Romains, chapitre 2, verset 6. Pourquoi, comme à l'époque de Moïse, à la naissance de Jésus à Bethléem, et aujourd'hui encore, par des millions d'avortements, le diable s'acharne-t-il à détruire les nouveau-nés ou les enfants à naître? Une des raisons est certainement d'empêcher ce passage unique, la vie terrestre, où l'homme peut vivre par la foi et aimer Dieu dans l'opposition. La Terre, une planète aimée et haïe. Un corps humain glorifié, celui de Jésus-Christ, fait désormais partie de la Trinité. Certes, la planète Terre est un minuscule grain de poussière perdu dans l'immensité de l'univers. Pourtant, Dieu l'a choisi pour s'y incarner. Même s'il existait d'innombrables formes de vie dans le cosmos, c'est avec les humains que le Créateur de l'univers s'est identifié, et ce sont eux qui reçoivent, par adoption, le titre de fils et fille de Dieu pour toujours. Oui, notre petite planète bleue est l'objet de l'attention de Dieu. Il l'aime, même si elle lui a causé tant de tristesse. C'est sur elle que se prépare l'épouse éternelle de son fils. L'obéissance et la prière de cette dernière bénissent la terre entière. Mais c'est aussi vers notre monde que Lucifer est descendu, avec une grande colère, dans le but de voler, égorger, détruire et gâcher la création, et plus encore, la créature faite à l'image de Dieu, conformément à l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Du commencement à la fin, il utilise le péché comme tremplin à son saccage. La terre, un village à notre dimension. Dès la Genèse, la Bible donne à chaque croyant une compréhension universelle. Elle lui montre sa responsabilité collective, lui fait connaître ses origines et les étapes essentielles de son histoire. Embrasser toute la création dans son dialogue avec Dieu n'est donc ni nouveau ni exceptionnel, mais la simple conséquence d'une lecture de la lettre que Dieu nous adresse. Aujourd'hui, l'information universelle est plus grande et plus précise que jamais. Toute la planète a été explorée, chaque langue recensée. La communication est instantanée et il ne faut que quelques heures pour se rendre d'un continent à l'autre. Les croyants ont ainsi une occasion exceptionnelle de s'intéresser à tous les peuples, de les aimer, de prier pour toutes les situations. Plus que jamais, ils peuvent s'identifier à leur Père dans sa volonté et sa compassion. Ils peuvent, comme lui, adopter cette planète comme leur propre village. La Terre appelée à disparaître. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. La première terre avait disparu, conformément à Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Notre planète est déchue, vouée au feu. Vaut-il la peine d'en prendre soin? Elle est semblable à notre corps. Il vieillit, tombe malade, est vulnérable et retourne à la poussière. Pourtant, tant qu'il est vivant, nous sommes appelés, sans en faire une idole, à en prendre le plus grand soin, à l'aimer, le respecter, le préserver, le vêtir et le nourrir. Il en est de même pour notre environnement immédiat et notre planète dans son ensemble. Par notre prière, bien des décisions essentielles, voire existentielles, seront inspirées par l'Esprit de Dieu, alors que le destructeur restera sur sa faim. Nous pouvons penser à ce sujet, à toutes les découvertes écologiques, médicales et scientifiques, aux décisions nationales et internationales sur l'hydrologie, les cultures, la lutte contre la désertification, la découverte de vaccins, etc. Le chrétien n'est pas appelé à une attitude fataliste ou à se réjouir quand le mal progresse, mais tout au contraire à se tenir sur la brèche en faveur de la ville, du pays et du monde dans lequel il vit, et cela jusqu'à la fin. L'Esprit de Christ a inspiré à nos prédécesseurs une attitude positive et combative face à l'ignorance, la maladie, la pauvreté, la déchéance, le péché sous toutes ses formes. Ils ont cherché, inventé, amélioré. Ils ont édifié universités, hôpitaux, assurances, mouvements de solidarité, etc. L'esprit de fatalisme, de superstition et de crainte a, lui, maintenu des nations entières dans un état de survie et d'oppression omniprésente. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Acte 10, verset 38. Jusqu'à son retour, et nul n'en connaît la date, nous devons suivre ses traces. Nous ne transformerons pas ce monde en paradis, mais nous y apporterons compassion, saveur, lumière, réponse en son nom jusqu'au dernier jour. Une efficacité certaine. L'histoire n'est pas construite au hasard, car celui qui prie a les mains sur le gouvernail du monde. Ce dicton est vrai pour autant que ses mains soient inspirées par l'Esprit de Dieu. Si seulement Dieu pouvait nous convaincre que nous n'avons jamais été et ne serons jamais des pantins dans sa main, mais des partenaires, Romains 15, verset 16, des amis, des ambassadeurs, 2 Corinthiens 5, verset 20. Le Seigneur ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs les prophètes, Amos, chapitre 3, verset 7. Quand un homme prie, Dieu écoute. La prière est un dialogue, une conversation vivante, elle n'est pas un théâtre où chaque acteur doit se contenter de tenir son rôle. Il était bien plus exaltant pour Dieu de créer quelqu'un à son image, capable d'aimer et par conséquent de se rebeller, que de créer un pantin, apparemment libre, mais manipulé secrètement en coulisses. Regardons prier Abraham, Moïse, Josué, Élie, Anne, Néhémie ou Ézéchias. Est-ce du playback ou l'histoire de l'humanité qui se bâtit dans une relation bien réelle entre créateur et créature? Dieu l'a voulu ainsi. Il n'avait besoin ni d'archange, ni de qui que ce soit, mais il a choisi de créer des fils et des filles qui, en dépit de son conseil, choisirent de lui résister, de lui désobéir, de le faire pleurer. Conformément à l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 41, et Jean 14, verset 9. Les sentiments de Dieu exprimés dans Genèse 6, 5 à 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur », pourrait se traduire littéralement par « Son cœur fut secoué de douleur ». Régner ainsi est infiniment plus admirable que de presser des boutons. Dieu s'est fait homme, non pour une excursion divertissante sur terre, mais pour sauver son partenaire égaré. Non, le péché n'est pas la volonté de Dieu. Non, votre obéissance n'est pas préprogrammée. Oui, le péché secoue de douleur le cœur de Dieu, conformément à Genèse 6, verset 6. Oui, votre obéissance le réjouit. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 4. Oui, le péché attriste réellement Dieu et s'oppose à ses plans. Oui, votre prière contribue réellement à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, conformément à l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 10. Cette relation donne un sens indescriptiblement profond à notre existence. Lorsque nous prenons Dieu au sérieux, il nous prend aussi au sérieux. Chaque page de la Bible l'atteste, comme nous le rappelle si magnifiquement Hébreux 11. Dieu nous a fait l'honneur de dialoguer avec nous sur la destinée des peuples et des nations. Les répercussions en sont éternelles et certaines. Observons à ce sujet trois situations fréquentes aujourd'hui qui répondent à trois questions. Quelle est l'influence de l'intercesseur quand Dieu veut donner la victoire à son peuple? Qu'advient-il quand Dieu doit juger un peuple mais qu'il se trouve un intercesseur en sa faveur? Qu'advient-il quand Dieu doit juger un peuple et que personne n'intercède? Quand Dieu veut donner la victoire à son peuple. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué partit combattre les Amalécites, comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Exode 17, versets 8 à 13. Aujourd'hui, le journal télévisé nous montre souvent Josué reculant devant Amalek. La plupart des chrétiens réagissent passivement en disant « Le monde va de plus en plus mal, on ne peut rien y changer ». Le fait que Josué recule fait peut-être partie du plan secret de Dieu. Josué n'aurait pas dû provoquer Amalek. La raison profonde en est fréquemment notre refus des vraies responsabilités. Nous refusons que le combat soit réel avec des enjeux non moins réels pour l'avenir de nos enfants. Nous voulons que la souveraineté de Dieu s'exerce dans les domaines qu'il nous a demandé de gérer. Moïse, lui, connaissait sa position d'acteur dans cette bataille. Ses mains, levées jusqu'au soir, établirent une victoire aussi bien sur le terrain que dans les lieux célestes, et elles honorèrent Dieu. Il donna alors à Moïse l'assurance solennelle d'une victoire définitive. L'état de votre pays dans 10 ans, dans 50 ou dans 100 ans, se dessine et se décide à chacune des batailles gagnées ou perdues cette année. Dieu veut guérir, sauver, restaurer, mais ce n'est pas automatique. Satan veut voler, tuer et détruire, mais ce n'est pas sage de lui laisser le champ libre. Quand Dieu doit juger un peuple, mais qu'il se trouve un intercesseur. J'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je vais les exterminer, puis je ferai naître de toi une grande nation. Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser en disant, « Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple, après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d'Égypte? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « C'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Ô Seigneur, apaise ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, auxquels tu as fait ce serment solennel, Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. » Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il l'avait menacé. Exode, chapitre 32, versets 9 à 14. Il nous faut décider une fois pour toutes. Ce récit est-il une pièce de théâtre, du playback, ou est-ce vraiment l'histoire de ces gens qui est en jeu? Ce récit est d'une grande valeur et d'une grande profondeur simplement parce qu'il est réel. Si vous ne le croyez pas, vous n'intercéderez jamais sérieusement pour votre famille, votre ville ou votre nation. Vous accepterez chaque défaite et chaque jugement comme inéluctable et vous resterez spectateur des événements. Mais si vous saisissez que vous êtes de la même nature que Moïse, que Dieu tient vraiment compte de votre prière et que la destinée éternelle de beaucoup peut changer par votre engagement, vous serez un bâtisseur pour le royaume de Dieu. Vous deviendrez un changeur de société. La presse n'a que très peu parlé des 100 000 chrétiens agenouillés en prière à Timișoara, à l'aube des changements en Roumanie, de ceux qui ont intercédé pour le renversement du mur de Berlin, ou de ceux se tenant à la brèche lors du putsch à Moscou, le 19 juillet 1991. Mais le Seigneur de toute la terre voit dans le secret. Il a agi et il agira encore. Quand Dieu doit juger un peuple et que personne n'intercède. Partout dans le pays, on pratique la violence, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, on exploite les étrangers contre leurs droits. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de les détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux. Je les détruis dans le feu de ma colère et je leur fais supporter les conséquences de leur conduite. Voilà ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Ézéchiel 22, versets 29 à 31. La réponse est simple. Quand Dieu doit juger un homme, une famille, une ville, une nation ou un continent et que personne n'intercède, le jugement tombe. Il en est ainsi aujourd'hui encore. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Psaume 2, verset 8. Comment prier pour une nation? Quels sont les domaines qui influencent le plus ses habitants? Nous voyons dans l'histoire d'Israël combien l'attitude du roi face à Dieu se reflétait sur le peuple tout entier. L'idolâtrie du souverain influençait une grande partie de son peuple, tandis que sa fidélité ou son retour à Dieu facilitait grandement un mouvement de réveil spirituel. Aujourd'hui, ces rois existent toujours. Ils s'appellent roi du rock, roi du tennis, roi de la finance. Leur pouvoir n'est pas seulement politique, mais traverse les frontières et compte, pour certains, 10 millions de fans dévoués. Leur règne s'étend par les médias, les livres, les modes, les concerts, etc. Prenons le cas de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'ex-URSS. En voyageant, j'ai constaté qu'un taxibad au Mali, un ex-communiste en France et un ministre de la Culture au Burundi étaient profondément influencés dans leur vie par lui. Lorsque Frère André lançait en 1982 l'opération « 7 ans de prière pour l'URSS », il mettait en route un processus spirituel à l'échelle planétaire. Il nous faut comprendre, si nous voulons un jour voir des nations entières se tourner majoritairement vers Christ, quel domaine façonne aujourd'hui la société. En voici 7 parmi les plus importants. 1. L'Église. Sa foi, sa pureté, son unité, ses ministères, son zèle, sa croissance, sa fidélité. 2. La famille. Son besoin de modèle, son unité, son futur, ses tragédies. Avortement, laxisme, immoralité, divorce, euthanasie. 3. Le gouvernement. Le chef d'État, les ministres, les gouverneurs, les préfets, etc. Les décisions, la gestion, l'ordre et la liberté. Le combat contre le crime organisé. 4. l'éducation, les enseignants, les philosophies scolaires, les universités, pépinières de tous les dirigeants de demain, les écoles chrétiennes. 5. Les sciences, l'industrie, le commerce et les finances, la recherche, la créativité, la sagesse, la présence chrétienne. 6. Les médias, la philosophie de l'information, la création et le choix des émissions, l'objectivité, les journalistes, chrétiens ou non, les portes ouvertes à l'Évangile, le développement des médias chrétiens. 7. Les arts, les loisirs et le sport, les artistes, les athlètes et leur influence sur des millions de jeunes, un retour au Créateur et au Sauveur. Que puis-je espérer pour une nation? Écoutons l'évangéliste Luis Palau nous répondre en parlant de son continent, l'Amérique du Sud. Mon rêve est de voir l'étonnement des nations, témoins du réveil religieux d'un peuple qui interrogeront « Que se passe-t-il là-bas ?» et qui recevront la réponse « Une nation s'est convertie et c'est Dieu qui l'a fait. » J'espère qu'un réveil religieux général se produira sur cette terre comme il y en a eu autrefois. Je crois que nous atteignons le point culminant de l'histoire et que les choses vont de mal en pis, mais cela ne signifie pas que nous devions renoncer à lutter pour le bien des nations. Car qui peut dire si le Seigneur reviendra d'ici 3 générations ou 30 générations? Considérez combien de millions de personnes se sont converties au cours des 50 dernières années. Il y a davantage de chrétiens maintenant qu'à aucun autre moment de l'histoire. Je ne pense pas que la Bible professe une philosophie défaitiste. Si c'était le cas, il y a déjà des années que nous aurions renoncé à évangéliser. J'attends le retour de Jésus-Christ dans des conditions dramatiques, comme un grand cataclysme. Mais d'ici là, je vais travailler, espérer et prier pour le salut de milliers et l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre possible de nations. J'ai toujours été frappé par la réponse que Dieu a donnée à Abraham lorsque celui-ci intercédait pour les villes de Sodome et Gomorre. Genèse 18. Abraham demandait à Dieu d'épargner ces villes s'il s'y trouvait quelques justes. Dieu lui accorda de suspendre son jugement si elles en abritaient 10. À combien plus forte raison le Seigneur serait prêt à bénir une nation ou une ville? Quel petit nombre de justes Dieu exige-t-il pour sursoir à son jugement? J'ai la conviction que 3 pays d'Amérique latine auront bientôt une population à majorité évangélique, professant une morale biblique et manifestant un amour envers le Seigneur Jésus-Christ. Si cela se produit, j'attends de Dieu qu'il accomplisse ce qu'il a promis. L'envoi de la pluie, des récoltes abondantes et de la guérison. Je ne vois vraiment pas pourquoi un tel miracle ne se produirait pas. Qui aurait cru que l'Albanie, premier pays athée du monde, chercherait l'Évangile si avidement, et verrait tant de personnes se tourner librement vers Christ? Qui avait prévu l'effondrement du communisme, la croissance spectaculaire de l'Église en Chine, la soif spirituelle intense de toute l'Afrique noire, les conversions par millions en Amérique latine, le réveil de la Corée du Sud, la liberté des pays de l'Est? Qui, sinon le Dieu Tout-Puissant? Ayez une grande espérance pour votre nation. Priez selon la volonté de Dieu pour que le plus grand nombre parvienne à la repentance. La persécution au sein du réveil nous est promise. Et même si elle prend des formes diverses et souvent contraires à nos prévisions, elle ne pourra pas empêcher une multitude de toute langue, de toute tribu, de tout peuple d'invoquer le nom de Jésus et d'être sauvés, conformément à l'Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. La persécution accélère même parfois le rythme des conversions, rend la prière plus fervente et purifie l'Église. Jonas ne tenait pas du tout à ce que la ville de Ninive se repente, mais seulement à ce que sa prophétie, interprétée selon sa petite théologie personnelle, se réalise. Dieu, lui, voulait donner à la cité une dernière occasion de se détourner du péché. Pour cela, il lui envoya sa parole. Sommes-nous inspirés par l'esprit de Jonas ou par l'Esprit de Dieu quand nous prions pour le monde? Avons-nous, avant le temps, déjà fait un trait sur telle ou telle nation, lui refusant tout accès à la repentance? Comprenons qu'aucune philosophie, aucun mouvement, aucune politique, aucune croyance humaine qui s'élève contre la connaissance de Dieu n'est immortelle. Seule l'épouse de Jésus-Christ a la promesse d'être vivante jusqu'à son retour. La nation la plus éloignée de l'Évangile, l'Église la plus endormie, peut encore être bouleversée par le souffle de Dieu et bénéficier du temps de la grâce. Dieu veut que tous parviennent à la repentance, conformément à la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Et nous, le voulons-nous vraiment? Sommes-nous plus grands que lui? En priant un jour avec un ami pour un pays totalement hostile à l'Évangile et enfermé dans une forteresse religieuse, je me demandais quel genre de prière nous pourrions bien exprimer devant Dieu. Il me sembla recevoir alors clairement ce passage de l'Écriture. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Joël 3, verset 1. Acte 2, verset 17. Je réalisai que Dieu lui-même s'était engagé formellement par sa parole à visiter puissamment ce pays. Celui-ci faisait évidemment partie de toute chair, ce qui donna des ailes à notre foi et nous entraîna dans un temps passionnant d'intercession. Voici, les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos, chapitre 8, verset 11. Des idées pratiques. Pour votre culte personnel, une stratégie est nécessaire et c'est à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux parmi de nombreuses possibilités. En voici quelques-unes. Priez pour une nation différente chaque jour ou, par exemple, du lundi au vendredi. Priez pendant une semaine pour le même pays en couvrant chaque jour l'un des 7 domaines d'influence. Priez pour toutes les ethnies d'une nation avant de passer à une autre nation. Priez pour chaque nation avec une vision particulière, s'humilier pour ses péchés, les peuples non atteints, le réveil, les chefs d'État, la traduction de la Bible, etc. Janvier, Afrique. Février, Europe. Mars, Asie. Avril, Amérique du Nord. Mai, Amérique du Sud. Juin, Océanie. Priez pour votre pays, pour chaque département ou canton, chaque district ou chaque commune. À vous de déterminer le rythme et la durée. Pendant un temps, j'ai pris l'annuaire téléphonique et j'ai prié nom par nom pour les familles de mon village natal. J'en eus l'idée durant un temps de louange et décidé de le vivre paisiblement et de m'arrêter si l'exercice prenait un goût légaliste. Ce ne fut pas le cas. Bien au contraire, ce fut une expérience vivante, pleine de souvenirs. De A à Z, il me fallut 6 mois pour nommer un peu plus de 1000 familles devant Dieu. Je m'arrêtais parfois plus longuement sur un foyer, une personne, une profession. Sans connexion humaine, je fus invité quelque temps après pour une série de réunions interdénominationnelles dans le village. Cette préparation me donna un amour et une liberté dans les messages que je n'avais jamais vécus jusque-là. Pour votre groupe de prière, si vous vous réunissez chaque semaine, pourquoi ne pas décider de consacrer une rencontre par mois pour un pays? Vous pouvez commencer par celui que vous aimez le plus, ou celui dans lequel le groupe connaît des amis, des missionnaires, des besoins criants. Il serait bon que vous définissiez une stratégie de base, comme par exemple que chacun présente un pays différent de son choix pendant autant de mois qu'il y a de participants au groupe. Cette présentation pourra se faire au goût de chacun, mais en veillant à donner la priorité à la prière et non à l'exposé. Au début, il faut que les plus motivés s'en chargent, afin que la préparation, tout comme l'application, soit une fête et non un devoir. Ce sera pour beaucoup semblable à l'entrée dans une grotte inexplorée. Nul ne sait jusqu'où elle peut conduire, ni les merveilles cachées à l'intérieur. Votre groupe pourrait commencer très timidement, mais peu à peu devenir un vrai pilier spirituel pour une famille missionnaire, une ville ou un peuple tout entier. Cela pourrait déboucher sur une correspondance avec quelqu'un du pays en question, et pourquoi pas amener à la visite de ce pays. Peut-être même qu'un membre de votre cellule deviendra la réponse à vos prières et sera appelé à aller vivre et travailler dans cette nation. Si votre groupe sème l'amour, il récoltera la vie abondante de ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir le royaume de Dieu. Pour votre Église, les chrétiens d'une région, etc. L'union fait la force. Prier pour tous les hommes est une stratégie aussi simple qu'efficace. Elle est d'autant plus passionnante et plus facile quand l'armée d'intercesseurs augmente. Les églises de Genève se sont retrouvées tous les 2 mois pour intercéder à chaque fois pour 2 communes du canton. Elles ont ainsi achevé de couvrir spécifiquement les 45 municipalités. Prier pour chaque habitant d'une ville, est-ce si compliqué? Les électriciens n'avaient-ils pas à éclairer le 100% de la population? Les enseignants à instruire le 100% des enfants? Les médecins à soigner le 100% de ceux qui en ont besoin? N'y aurait-il que les chrétiens pour laisser des trous béants, n'intercéder que pour un médiocre 10% des populations engluées dans les problèmes? J'aime le répéter. Le Saint-Esprit et l'organisation ne sont pas 2 ennemis. C'est par des hommes et des femmes remplis de l'Esprit et qui ne craignent pas l'organisation que les églises seront mobilisées pour couvrir nos pays par la prière. 300 chrétiens peuvent aisément prier pour chacun des 30 000 habitants de leur ville, soit 100 chacun, ou encore pour les 300 villages et hameaux des alentours. 100 chrétiens motivés peuvent adopter personnellement un département en France et vivre une année significative. Un courrier aux 700 cellules de prière de Suisse romande pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles percées spirituelles. Qui se lèvera pour mettre l'armée de Dieu en mouvement et pour qu'enfin, avant toute chose, elle prie pour tous les hommes? Pour un concert de prière. Soyez créatifs. Le peuple de Dieu peut devenir très efficace, pour autant que le son de la trompette du dirigeant soit clair. Préparez minutieusement le combat, et la victoire se lira sur les visages. Les gens viennent ou reviennent là où ils se plaisent et se sentent utiles. Un dirigeant aura principalement 4 éléments à gérer. 1. Les informations sur le ou les sujets de prière. Elles doivent être intéressantes, brèves, précises et stimulantes. Une erreur fréquente est de croire que plus le tableau est sombre, plus les gens seront impressionnés et motivés. C'est généralement le contraire qui se produit. Personne n'a très envie de s'engager dans un combat désespéré. Les missionnaires qui envoient des statistiques alarmistes risquent à leur insu de démotiver les vocations potentielles et d'éteindre leur réseau de prières. 2. L'action dans ses divers aspects. Chant, exprimant un message de foi, de combat, de reconnaissance en rapport avec le sujet traité. Temps de silence, écoute prophétique, prière sous toutes ses formes, proclamation à haute voix, etc. 3. Les groupes d'intercesseurs. Si vous avez 150 personnes, vous pouvez les conduire à prier à divers moments par cellule de 2, 5, 10, voire 20 personnes. Parfois, elles se mettront en 2 groupes seulement, l'un intercédant, l'autre proclamant la victoire par Christ en chantant. Parfois, le sujet sera le même pour tous, et d'autres fois, chaque groupe prendra un aspect différent, comme par exemple 10 groupes priant chacun pour les 10 quartiers d'une ville ou les 10 régions d'un pays, etc. 4. Les temps de prière. Suffisamment long pour une action profonde, mais diversifié. Exemple, 10 minutes d'intercession pour la conférence internationale sur 5 minutes pour le président de. Si les personnes prient en groupe restreint, la majorité pourra s'exprimer. Lors de la semaine universelle de prière, je devais conduire 500 personnes pendant 10 minutes. Je repris l'idée de prier pour tous les hommes. Pour ce faire, je photocopiais la liste de tous les pays et la découpais en autant de parties. Des paniers contenant les minuscules papiers passèrent dans les rangs. Une personne sur deux se servit et se mit en prière avec son voisin. Quelle joie de penser que d'un seul endroit, plus de 200 couples de disciples priaient pour le monde entier. Ce fut l'un des temps forts de la semaine. Au cours d'une retraite du personnel de GEM en Suisse romande, je distribuai le portrait, trouvé dans un journal, de chacun des 7 conseillers fédéraux à 7 groupes de prière formés spontanément. En moins de 2 minutes, nous étions tous en prière, arrosant les multiples facettes de leur vie personnelle et publique. Quelques sources d'informations. Livre. Comme mentionné, Flash sur le monde aux éditions Farel est un excellent outil. Une encyclopédie peut être une base d'informations, tout comme un simple livre de géographie en votre possession ou emprunté dans une bibliothèque. Petite carte. Opération Mobilisation en a imprimé pour faciliter l'intercession pour les 52 nations les plus nécessiteuses. Les informations par les médias. Si les chrétiens prenaient l'habitude de transformer ces informations en intercession, aucun événement majeur ne pourrait se produire sans être arrosé de prières ferventes et efficaces. Internet, donnant une foule d'indications sur toutes les nations. Carte du monde. C'est la méthode que j'utilise actuellement. Je l'ai accrochée sous forme de puzzle au mur de mon bureau. Chaque jour, après avoir écouté les informations et discerné devant Dieu le sujet de son choix, j'intercède pour un pays en particulier. Avec une épingle plantée dans l'interstice des pièces, j'indique la nation pour laquelle j'ai prié, jusqu'à ce que toutes soient couvertes. Les cartes des continents, tirées de l'agenda international de prière de GEM, elles ont été ajoutées à ce livre afin d'aider ceux qui n'auraient pas d'autres sources d'informations. Si c'est votre cas, vous pouvez colorier ou souligner les pays au fur et à mesure de votre avance et selon la stratégie choisie. Si par exemple vous enseignez ce sujet à d'autres et que vous n'avez aucun support à proposer, encouragez-les à faire la liste des pays qu'ils connaissent et à commencer par eux. Dieu sera fidèle pour pourvoir alors qu'on lui obéit. Résumé du chapitre 2. Nous sommes sa maison. Hébreux 3, verset 6. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Ésaïe 56, verset 7. Du secret de ma chambre, je peux aimer et influencer le monde entier. Mon privilège, dialoguer avec le chef de l'univers. Un ministère est un devoir ni difficile ni pénible. Le Saint-Esprit inspire, motive, nourrit ma prière et la rend efficace. Une occasion unique dans l'éternité. Je vis dans une école de princes, sur une planète aimée et haïe. Elle est mon village, mais elle disparaîtra un jour. Ma responsabilité est réelle. 7 domaines modèlent la société et demandent ma prière. 1. L'Église. 2. La famille. 3. Le gouvernement. 4. L'éducation. 5. Les sciences. 6. Les médias. 7. Les arts. Le choix de prier pour tous les hommes, dans mon culte personnel et avec d'autres personnes, m'appartient. Quand vais-je commencer à intercéder pour les nations? Quelle sera ma première stratégie? Témoignage de mes premiers exaucements. Comment et quand vais-je initier mon groupe de prière à l'intercession pour les nations? Pourquoi ne pas lire ce chapitre ensemble? Comment entraîner mon Église dans la prière pour les nations et, ce faisant, la servir? Comment puis-je susciter ou inspirer un concert de prière dans ma ville, ma région?